cobuzz.com. Rencontre par Marc Zisman.
Bonjour Edil Birecht.
Bonjour.
Alors Edil Birecht, actuellement Naxos se distribue ce qu'on appelle les Edil Birecht Archives, comme on dit en anglais, les archives, puisque depuis, j'allais dire depuis 1949, qui je crois était votre tout premier enregistrement, oui. Première fois, il y a eu plus de 80 albums. Enfin, vous êtes une sorte de gourmande, de gloutonne d'enregistrement. Vous avez un rapport à l'enregistrement au disque assez impressionnant, et donc Naxos distribue progressivement toutes ces archives. Alors vous avez cessé d'enregistrer, vous avez des intégrales pour piano de Brahms, Rachmaninoff, Chopin, mm-hmm. etc. Je crois que vous venez de finir les sonates de Beethoven. C'est vraiment impressionnant. Je voudrais savoir d'où vient cette envie toujours de graver dans la cire, même si maintenant c'est plus vraiment de la cire, mais de vous laisser comme ça en enregistrement. À quel moment est-ce que ça a toujours été en vous et pourquoi cette envie de ce rapport à l'enregistrement ?
J'ai commencé à enregistrer très tôt. Mon premier disque, je pense, date de l'époque où j'avais 16 ans ou 17 ans. Alors là, j'avais enregistré les trois intermezzos de Brahms et les fantaisies Stücke pour une firme qui a disparu depuis là. Et puis j'avais fait plus tard pour Vega. Les variations Paganini et Handel de Brahms, ainsi que la 7e sonate de Prokofiev et des morceaux de Bartok. Ça a été le deuxième disque. Et ensuite, ça a continué. Donc, j'ai commencé très tôt à enregistrer et je me suis trouvée très, très bien. Je me sentais tout à fait à l'aise dans un studio. C'est pour ça que peut-être j'ai continué.
Est-ce qu'il y a une évolution par rapport à ça, c'est-à-dire par rapport à la scène, vous retrouvez face à un public ou vous retrouvez dans un studio ? Est-ce que pour vous, c'est des approches assez différentes ?
Non, pas du tout. C'est simplement qu'il faut peut-être se concentrer d'une autre manière. Sur la scène, il faut se dépasser. Il faut oublier tout ce qu'on a fait auparavant, toutes les choses qu'on a préparées très minutieusement et être dans une sorte, si on peut arriver à ce degré, d'être dans un état presque second, mais sans perdre le contrôle toutefois. Ça, c'est très important. Tandis que dans un studio d'enregistrement, vous avez toujours la possibilité de recommencer une chose. Mais ça, il ne faut pas non plus trop compter dessus, parce que à force de trop recommencer, on peut perdre la spontanéité. Et je crois que chaque œuvre qu'on enregistre doit donner l'impression d'avoir été enregistrée au concert.
C'est pour ça également que vous ne réenregistrez pas finalement tant que ça, comme certains pianistes qui, à différents moments de leur carrière, vont réenregistrer.
Pardon ?
Ce n'est pas complètement votre cas, donc juste...
Mais écoutez, je ne demanderai pas mieux, en fait, parce que chaque instant, je pense qu'on change et qu'on découvre des nouvelles choses. C'est pour cette raison que je pense que j'aimerais peut-être enregistrer, réenregistrer, faire ce qu'on appelle des enregistrements progressifs. C'est-à-dire enregistrer un morceau et puis recommencer 6 mois après, ou un an, et voir ce qu'on a fait entre-temps, ce qu'on a découvert. Ce serait vraiment passionnant. Mais je crois qu'un enregistrement, au fond, n'est qu'une sorte de photographie d'un certain moment de la vie, et qu'il ne faut pas se dire, ça c'est une version qui va être la seule, ça je crois que ça n'existe pas. Parce qu'on change, on découvre de nouvelles choses, on se développe, parfois on peut, en essayant de faire trop bien, justement, ne pas faire exactement ce qu'il faudrait. C'est-à-dire que, au lieu de progresser, on peut régresser. Ça, il faut faire très attention à cela. Donc, ne jamais perdre le sens critique.
Est-ce que vous réécoutez vos enregistrements parfois ou très rarement ?
Non, pas tellement, à vrai dire, parce que je trouve que c'est comme je ne regarde pas mes photos. Ça, il ne me viendrait pas à l'esprit de m'installer et de prendre un album, s'il y a un album, et regarder les photos. Ça ne me viendrait vraiment pas à l'esprit.
Et le rapport avec le studio, vous avez évoqué cette, presque comme une complicité que vous avez naturelle depuis toujours avec le studio d'enregistrement, l'enregistrement, etc. Est-ce qu'il a évolué à travers les années ? Est-ce que quand vous rentrez dans un studio aujourd'hui, quand vous enregistrez, c'est toujours la même chose ? Ou finalement, il y a des choses que vous ressentez maintenant que vous ne ressentiez pas plutôt, etc. Comment ça a évolué?
C'est très curieux. Lorsque je me concentre vraiment et j'essaie de penser à l'œuvre que je vais jouer, je vais essayer de faire le mieux possible. C'est ça qui compte. Et les lieux ne m'intéressent pas outre mesure. Évidemment, s'il y a une acoustique qui est un peu difficile, c'est-à-dire il faut que j'entende d'une manière qui soit naturelle, que je n'ai pas une sonorité trop sèche ou bien qui ne me revienne pas. Parce que dans une salle de concert, il y a toujours un aller et un retour. Parfois, c'est quelques secondes, il faut toujours voir. Il y a parfois de l'écho, surtout si on joue dans des églises ou dans des salles. Là, il faut faire attention et ne pas trop mettre de pédales. Tout ça, ce sont des choses auxquelles il faut faire attention. Il faut tenir compte de tout cela. Dans un studio, souvent, ce n'est pas le cas. Mais il faut imaginer qu'on est dans une salle de concert, c'est ça l'histoire. Mais pour moi, les lieux, ce que je vois autour de moi, au fond, je ne vois pas grand-chose. Ce que je vois, c'est la musique.
Alors donc ce rapport avec le disque, avec l'enregistrement que vous venez d'évoquer, comment vous l'avez ressenti, comment vous le ressentez par rapport au disque des autres? C'est-à-dire, est-ce que vous avez commencé très, très jeune la musique? Vous êtes né dans la musique presque tout le temps, en permanence, c'était dans vos gènes. Oui. Est-ce que, très rapidement, vous écoutiez énormément les disques, vous aviez des disques fétiches de certains musiciens? Quel rapport vous aviez au disque et quel est-il même aujourd'hui encore?
C'est vrai, lorsque j'étais très jeune, je devais avoir 7 ans, 8 ans tout au plus, j'ai découvert l'enregistrement de Toscanini et de Horowitz, le deuxième concerto de Brahms. Et ça a été extraordinaire comme découverte. Et j'avais même la version en 78 tours, imaginez-vous. Et j'avais appris tout ça par cœur, tout le concerto, en écoutant les disques. Et c'était très drôle, parce que je m'arrêtais chaque fois que le disque s'achevait, le 78 tours, et je faisais une pause, le temps de remettre l'autre côté ou l'autre partie du disque, ce qui était très drôle d'ailleurs. Mais ensuite, j'ai découvert quelqu'un comme Rachmaninoff, et ça a été vraiment, dans le meilleur sens du mot, un choc pianistique et musical, parce que c'était exactement la manière dont je rêvais que piano devrait sonner, au fond. Mais évidemment, il y avait tous les disques que j'aimais beaucoup. J'admirais beaucoup Wilhelm Kempf aussi, Backhouse énormément, et aussi, par exemple, pour les sonates de Beethoven, je crois que Schnabel est absolument incontournable, parce que c'est le premier qui a fait une intégrale de toutes ses sonates, et c'est vraiment extraordinaire ce qu'il fait, malgré des tempos qui sont parfois un peu rapides. Il y a parfois des tempos très rapides, mais je suis sûre que cela est dû donc à la longueur, surface des disques qui ne devaient pas excéder 4 minutes et demie ou 5 minutes au grand maximum. Je crois que c'est comme ça qu'on peut expliquer certains tempos qui nous semblent un peu trop rapides.
Alors donc ce rapport avec l'enregistrement, il y a aussi un rapport avec l'éclectisme, je veux dire, du répertoire. C'est-à-dire, c'est aussi très 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 large. Vous jouez Chopin, Ligeti, Boulez, Rachmaninov. C'était quoi ? Il y avait aussi une envie vraiment d'avoir le spectre le plus large. Mm-hmm. Il y avait une envie de connaissance, d'assimilation. Comment se faisait ça d'un côté ? Et de l'autre côté, j'allais dire, le tri aussi, peut-être aussi parfois par rapport à...
Oui. Je me dis qu'il y a des œuvres que j'aime beaucoup jouer, pianistiquement parlant, parce que c'est très intéressant, c'est merveilleusement bien écrit pour le piano. Mais ces œuvres-là, je ne les écouterai pas nécessairement tout le temps. Il y a des œuvres que j'écouterai comme toute la musique de chambre. Ça, j'écouterai n'importe quand, n'importe où. Mais, par exemple, pour prendre un compositeur, Schubert, j'admire énormément, que j'aime beaucoup. Mais pianistiquement, il y a certaines choses qui me semblent un peu... comment dire, il aurait pu utiliser l'instrument, les possibilités de l'instrument un peu plus. Et donc... ça me ravit de jouer les leads de Schubert dans la transcription de Liszt, par exemple. Parce que là, il y a le côté pianistique et aussi la beauté des leads qui sont complètement là et respectés très souvent.
Quand on vit en musique comme ça, tout le temps, depuis toujours, est-ce qu'on redécouvre finalement des œuvres, par exemple ? Est-ce que actuellement des œuvres qui pour vous vous semblaient mineures, vous touchez assez peu à une certaine période, vous maintenant vous tétanisez vous... Et parfois l'inverse, au contraire, des œuvres qui étaient essentielles pour vous, qui finalement s'estompent et...
Vous savez, comme je disais tout à l'heure, on change à chaque moment. Donc il y a des œuvres qui vous sont plus proches à certaines périodes de la vie. Et là, par exemple, il y a eu un moment donné, disons que lorsque j'ai enregistré les œuvres de Rachmaninov, j'étais complètement vraiment dans toute cette période. Je lisais énormément, comme je fais chaque fois. J'ai fait la même chose avec Chopin ou Beethoven. Enfin, j'essaie de m'immerser dans cette période. Mais en faisant cela, évidemment, on s'éloigne d'une une certaine manière. Par exemple, si actuellement je joue du Beethoven, je ne regarderai pas tout à fait de la même manière Rachmaninov. Ou bien si je joue du Rachmaninov, je ne regarderai pas Beethoven de la même manière. Donc ça, c'est ça dépend réellement du moment et voilà, des circonstances aussi psychologiques.
Et des capacités, une virtuosité précoce, on parlait d'enfants en prodige. Est-ce qu'il y a des avantages et des inconvénients finalement à avoir ces dons quand on est très 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 jeune, avec le recul aujourd'hui ?
Il y a quelques dangers qui peuvent se présenter. Par exemple, une certaine facilité est de ne pas exactement faire le texte tel qu'il est écrit. Parce que dans le cas, lorsque j'étais enfant, je vais faire une parenthèse, j'improvisais énormément. Je continue d'ailleurs à improviser pour mon plaisir. Mais en improvisant, vous pouvez aussi improviser dans la musique écrite que vous devez jouer. Donc je dois être encore plus vigilante, regarder de plus près ce que je joue. C'est-à-dire, je peux très bien jouer un accord qui, à l'écoute superficielle, semblera tout à fait correct. Mais il y a une note... ça ne sera pas tout à fait ce qui a été écrit, ce sera un renversement, par exemple, d'un accord. Mais ce sont des choses, ce n'est pas faux, si vous voulez, mais ce n'est pas exactement ce qui est écrit. Alors là, il faut faire très attention. Et là, je méfie énormément de ça. Je connais ce côté qui est le côté faible, disons, que je peux avoir.
Alors, le petit logo des Idylbyret Archives, c'est un dessin de Dürer, qui a un petit détail, qui vous a été, je crois, offert par quelqu'un qui a compté pour vous, c'est Nadia Boulanger.
Ah oui.
Donc, dans quelles circonstances vous êtes retrouvé à
étudier ? Donc, il y a... c'est un dessin d'Albrecht Dürer. Qui représente un ange. Et j'avais reçu une carte de Nadia Boulanger pour Noël. je ne sais plus quelle année, et elle m'écrivait ces lignes que cet ange te protège et enfin te mène d'une manière. J'essaie de me rappeler exactement les termes, enfin qu'elle a utilisé, les mots sur ce chemin qui est tellement périlleux et difficile, que cet ange te protège. Voilà ce qu'elle avait écrit, plus ou moins.
Avec le recul, que gardez-vous de ces années d'apprentissage à ses côtés?
Vous voulez dire mes années d'études, oui, avec Nadia Boulanger? Eh bien, vous savez, j'ai aussi quelque chose qui est un peu particulier, c'est que je vis beaucoup l'instant et que le passé reste le passé. Mais je vais essayer de me souvenir de ce qui m'a le plus marqué chez elle. Je crois que c'est le refus de tricher. Elle nous apprenait à être 100% honnête avec nous-mêmes. Et ne jamais dire « Ah, ça, c'est une petite chose, mais ça ne fait rien, personne ne le remarquera, par exemple. » Ça, c'était pour elle absolument haïssable, si je puis dire ainsi, parce que Nadia Boulanger nous disait, il faut, et elle nous donnait en exemple un jour où elle était rentrée à la maison, sa mère l'avait accueillie, et Nadia Boulanger, très contente, lui a dit, voilà, j'ai mon premier prix de, je pense que c'était un premier prix d'accompagnement ou de solfège ou d'harmonie ou de contre, je ne sais plus, mais en tout cas. Alors sa mère lui avait dit, très bien, mais ça ne m'impressionne absolument pas, parce que ce qui m'aurait impressionné, c'est que tu aies vraiment fait un effort. Là, tu n'as fait absolument aucun effort, tu l'as eu très facilement, sans vraiment travailler. J'aurais préféré que tu n'obtiennes pas de récompense, mais que tu aies vraiment fait un effort et qui t'ait fait progresser. C'est ça qui comptait pour elle. Alors donc, c'est ce côté très, disons, honnête, dans le meilleur sens du mot. Parce que lorsqu'on parle d'honnêteté, parfois, ça peut être aussi un petit peu, les mots ont perdu, évidemment, de leur force avec les années, ça c'est vrai.
Personnalité qui a croisé votre chemin, c'est Wilhelm Kempf,
oui,
que vous avez évoqué tout à l'heure sur disque. Alors, vous étiez assez jeune, je crois, quand vous l'avez...
Oui, je l'ai rencontré, même avant de rencontrer Nadia Boulanger. Mmh. Donc, j'avais 7 ans et demi, et j'ai joué pour lui. Et chaque fois qu'il venait à Paris, il voulait m'écouter. Et un jour, je lui avais joué une sonate de Beethoven. Je crois que c'était l'opus 14, numéro 2. Il m'a dit, oh, mais ça serait bien si nous jouions un concert ensemble. Alors, je n'ai rien pensé, puisque nous nous amusions à improviser ensemble à quatre mains. Alors, j'avais pensé, on va faire peut-être des improvisations, quelque chose comme ça. Mais c'est pas du tout. C'était le concerto pour deux pianos de Mozart qu'on devait jouer. Et donc, ce concert a eu lieu lorsque moi j'avais 11 ans. Nous avons joué à la Société des concerts du Conservatoire, donc l'Orchestre de Paris actuel, au Théâtre des Champs-Élysées. Et Joseph Kalbert a dirigé le concert. Et je ne me rendais toujours pas compte.
C'est ce que j'allais vous demander, ce que vous réalisiez tout... Non, pas vraiment. Ouais.
Je trouvais que c'était très, très normal, au fond. Que
de jouer avec William Kempf.
Voilà. Et je ne me rendais vraiment pas compte. Je l'admirais beaucoup, mais pour moi, c'était naturel. Pourquoi pas? Maintenant, je me rends compte, évidemment.
Dans les années 70, vous avez joué beaucoup de compositeurs contemporains.
Oui.
D'où vous est venue cette attirance? Est-ce que pour vous, c'était essentiel, justement, jouer des gens, des musiciens qui écrivaient de la musique de, votre, de leur vivant? C'est ça qui vous attirait?
Je vais vous dire, c'est Nadia Boulanger qui, au début, a attiré mon attention sur ce fait. Elle a dit, bon, très bien, tu joues le répertoire classique, mais je ne t'ai jamais entendu jouer une œuvre contemporaine. Jamais entendu jouer de Schoenberg ou Berg, qui n'étaient pas des œuvres, enfin, c'était des classiques déjà, mais je n'avais pas du tout abordé ce répertoire. Et aussi, Claude Samuel m'a demandé de faire des enregistrements de musique du XXe siècle. Et aussi, je suis allée, invitée toujours par Samuel, au festival de Royan, plusieurs fois, où j'ai joué les structures pour deux pianos de Boulez. J'ai joué la sonate pour piano, deux pianos, percussions de Bartok. Et nous avons fait, avec Georges Pludamaher, ça c'était la première fois, Archipel 4 de Boukhorechliev, ça aussi. Et donc, je suis tout à coup partie dans cette musique contemporaine qui m'a passionnée. J'étais très, très intéressée. Et je suis toujours très intéressée. Mais à cette époque, il y avait quelque chose de plus... Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a tellement de possibilités qu'il n'y a plus ces dictats qui ont existé, c'est-à-dire qu'on devait écrire dans un certain style pour être vraiment joué. Et quelqu'un qui, par exemple, composait dans un langage, disons, tonal, n'était pas très bien vu à l'époque. Tandis qu'aujourd'hui, vous pouvez aussi écrire quelque chose dans le style tonal. Mais j'ai l'impression qu'on a un peu perdu le contact avec la tonalité, justement. Et parfois, j'entends des œuvres qui sont composées de cette manière, c'est-à-dire tonale, et qui, pour moi, sonnent exactement comme si un martien avait essayé de composer dans ce style. C'est-à-dire, c'est peut-être correct, mais ça ne sonne pas du tout, enfin, d'une manière... j'essaie de trouver le mot exact que je suis en train de chercher. Ce n'est pas convaincant, voilà ce que je veux dire.
L'écriture, la composition, vous avez parlé d'improvisation.
C'est-à-dire la manière d'agencer les choses ne sonne pas d'une manière convaincante. Et ça, je crois que c'est dû un petit peu à cet éloignement qu'on a eu assez longtemps avec la tonalité.
Alors, éclectisme du répertoire, enregistrement, etc. Est-ce que la composition, à un moment, vous a attiré?
Oui, certainement. Seulement, je dois dire que Nadia Boulanger disait « Ah, je ne veux pas du tout présenter mes œuvres parce que c'est de la musique inutile. » Et j'ai très peur de la musique inutile. Il y a tellement déjà de musique. Enfin, le répertoire du piano, par exemple, est absolument... C'est fabuleux et c'est effrayant à la fois, parce qu'on n'arrivera jamais, certainement, à jouer tout le répertoire pianistique. Il y a des compositeurs que... Enfin, par exemple, je pense à quelqu'un comme Sorabji, dont on entend très rarement les œuvres et qui a pourtant composé des œuvres très intéressantes qui durent souvent près de 3h30, 4h. Donc c'est vraiment une musique qui demande beaucoup d'attention, de concentration et aussi le sens polyphonique, énormément.
Est-ce que votre curiosité musicale, artistique, vous a attiré, alors peut-être uniquement en tant qu'auditeur, vers d'autres styles de musique, le jazz, la musique populaire, autre chose, je sais pas, la musique du monde, et lesquelles ?
J'adore écouter le jazz, c'est-à-dire que c'est... Et je trouve que les musiciens classiques devaient écouter plus souvent le jazz. Surtout, j'admire le toucher des pianistes de jazz, qui ont un toucher qui est tellement... jamais il y a un son dur. À moins qu'il va faire un effet très spécial. Mais en général, la sonorité est vraiment superbe, ronde et jamais agressive. Et je pense que souvent, nous devrions un petit peu nous inspirer de ces pianistes de jazz. Et il y a aussi une liberté qui... parfois manque dans des jeux qui sont trop, comment dire, en essayant de faire trop bien, justement, on perd la spontanéité parfois.
Et alors, est-ce que cette fin d'éclectisme dépasse, j'imagine, les frontières de la musique ? Est-ce que vous dévorez d'autres formes d'art qui vous...
Vous voulez en dehors de la musique ?
Tout à fait.
Oui. Oh, vous savez, lorsque j'étais enfant et plus tard, j'aimais beaucoup faire des caricatures et parfois je continue. Seulement, il faut avoir un dessin très sûr et ça, je ne suis pas sûre de l'avoir. Mais les idées, parfois, me viennent à l'esprit. J'adore la peinture, j'aime beaucoup la littérature. Il m'est arrivé d'écrire parfois des récits, mais j'ai beaucoup d'idées. J'aime beaucoup la photo également, toutes les formes de l'art.
Parce que quand on joue du piano depuis toujours, et on a des besoins ou des envies parfois de faire des pauses.
Oui, bien sûr.
Est-ce que vous en faites ? Est-ce que parfois
oui, oui, oui.
C'est nécessaire même parfois.
Pardon ?
Est-ce que c'est nécessaire parfois ?
C'est-à-dire, il faut... Je crois que curieusement, ma manière de travailler aussi, je ne travaille pas... En fait, je travaille de moins en moins sur les œuvres. C'est-à-dire, je lis les œuvres. Je lis ce qu'il faut, les nuances, les phrasés, parce qu'on peut toujours omettre quelque chose. Quelque chose peut avoir échappé à votre attention. Tandis qu'en lisant, on se rappelle, c'est très important aussi d'imaginer la musique, c'est-à-dire de l'entendre intérieure. L'écoute intérieure est très importante. Et au piano, je crois qu'il faut faire beaucoup d'exercices et des gammes. Curieusement, je crois que c'est la seule manière d'atteindre un niveau pianistique suffisant et que vous puissiez, par exemple, au moment où vous dites, voilà, je vais utiliser ce doigté, il faut que les doigts répondent immédiatement. Il ne faut pas être, victime d'un trou de mémoire du point de vue doigté. Il faut être tellement prêt que si même ça se produisait, on puisse utiliser d'autres doigts de la main et obtenir les mêmes résultats. Enfin, un résultat au moins similaire. Mais pour ça, il faut beaucoup travailler la technique. Et les exercices sont ce qu'il y a du mieux, à mon avis. Alors, il y a les exercices de Brahms, il y a les exercices de Liszt, il y a les exercices de Hanon, qui étaient très en vogue en Russie à une certaine époque, plus maintenant. Mais des gens comme Rachmaninov, Scriabine, leur professeur Zverev utilisait beaucoup ces méthodes qui aussi était exigé au conservatoire. Donc, il devait jouer les exercices. On mettait le métronome à une certaine hauteur, enfin, à une certaine vitesse, et puis accélérer et transposer ces exercices. Et si les élèves n'avaient pas réussi à passer l'examen technique, on ne leur faisait pas jouer leur répertoire. C'était à ce point. Et je crois que ça durait à peu près 8 ans. Ces exercices. C'est pour ça qu'il y a des techniques extraordinaires, surtout à cette époque. Il y a un raffinement dans les nuances, dans le jeu, dans l'égalité, dans la force, dans tout.
Quelles sont vos envies d'enregistrement futur, des envies de...
Attends.
Actuellement
Je pense que j'ai toujours été très intéressée par Scriabin. Et peut-être que je ferai du Scriabin. Mais si je pense que quelqu'un comme Sorabji m'intéresse, les œuvres de Busoni m'intéressent beaucoup. Donc, il y a toujours une liste assez longue. Et j'espère que j'aurai le temps de faire tout cela.
Est-ce que vous allez au concert de temps en temps? Vous allez écouter des confrères, comme on dit?
C'est-à-dire que il faut être sur place et souvent je suis en voyage et pendant les voyages, lorsque je suis en concert, c'est un peu difficile d'aller écouter un autre concert parce que vous êtes vraiment dans ce que vous faites et parfois même écouter un autre répertoire. Il vaut mieux en ce cas d'aller au théâtre. Voir un musée, une exposition, peut-être parce que ça vous détend et ça vous... il y a des associations qu'on peut faire aussi entre la musique et, par exemple, la peinture, ou, enfin, le théâtre, le cinéma.
Est-ce qu'il y a des jeunes pianistes actuels qui vous touchent?
Oui, certainement. Et je me rends compte, tout à l'heure j'écoutais un concours qui a été retransmis à la radio et c'est absolument étonnant le degré de, je dirais, de propreté auquel les jeunes pianistes accèdent maintenant. Parfois, et je le regrette, il y a un peu un manque de construction, c'est-à-dire la forme n'est pas toujours très, respectée. Ce qui m'étonne aussi, c'est parfois d'entendre des détails qui prennent beaucoup trop d'importance. Tandis que ce qui est important et les points de tension sont complètement négligés. Et ça, je me demande si ce n'est pas dû à un manque d'analyse. Enfin, il faut tout de même avoir une idée précise de ce qu'on joue, de la manière dont ça a été construit. Et il y a plusieurs manières d'analyser, bien sûr, il faut les faire toutes. Moi, ça, c'est important. Et c'est ça qui manque un petit peu. C'est-à-dire qu'on entend, c'est uniforme, c'est lisse. Mais ce n'est pas suffisant parce qu'il y a des arêtes, il y a des moments où il y a des points culminants. Il y a un point culminant, le point de Rachmaninov peut-être. Voilà. C'est ça qui, actuellement, à mon avis, fait un peu défaut.
Alors pour terminer, je rappellerai qu'au-delà de tous les enregistrements qui sont disponibles et qui vont l'être même par la suite, il y a un livre d'entretien également qui est sorti il y a 2 ans, de Dominique Zardel, qui s'appelle Idil Biret, une pianiste turque en France, qui est sorti publié chez Bûcher-Chastel, donc qui permettra, j'allais dire, d'en savoir encore plus sur vous. Mais écoutez, on vous remercie beaucoup, Idil Biret.
C'est moi qui vous remercie.
arrobase.com. Rencontre par Marc Zisman.